Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Bonjour chers auditeurs, interview numéro 2 de Louis Tecky. Bonjour Louis.
Bonjour Myriam.
Bon, alors on a parlé d'un projet emblématique et superbe de ton agence qui est le projet Parmentier. Tu as donné l'adresse. J'incite d'ailleurs les auditeurs à écouter l'interview numéro 1 parce qu'effectivement c'est passionnant et de passer avenue Parmentier. On parlait évidemment de ce qui était réhabilitation site occupé, de cette problématique des matériaux biosourcés, de comment on fait une réhabilitation, on va dire, vraiment éthique, on va dire, du point de vue de la morale, et puis surtout, effectivement, avec des matériaux de qualité. Comment fait-on pour essayer de convaincre les maîtres d'ouvrage qui sont, pour certains, réticents à faire de la réhabilitation qualitative, de passer justement de cette notion de réhabilitation basique, fenêtre, hall d'entrée, VMC, à quelque chose qui rajoute.
Comme toujours, Myriam, il n'y a pas de réponse unique. Hein. Chaque cas est évidemment différent, mais quel que soit le maître d'ouvrage avec lequel on travaille, quelle que soit la problématique, on va essayer de se concentrer pour bien faire les choses et pour, dans le cadre d'un budget qui nous est donné, avec un patrimoine tel qu'il existe, réussir à être pertinent. Donc il n'y a pas de recette en réhabilitation. C'est peut-être ça d'ailleurs qui nuisait à l'image de la réhabilitation. C'était une espèce de truc où on appliquait les recettes. Quel que soit l'immeuble, c'était toujours la même façade, un peu colorée selon le style de l'architecte qui passait derrière. Et aujourd'hui, à l'agence, comme dans beaucoup d'agences, on ne travaille plus comme ça. On arrive, on commence par regarder, on s'intéresse au bâtiment, on essaye de rentrer en empathie finalement avec non seulement le bâtiment, l'architecte qui l'a conçu initialement, mais les gens qui y ont vécu pendant 30, 40, 50, 60 ans.
Il y a de l'écoute.
Toute cette espèce d'accumulation, quoi, de stratification à laquelle on vient se rajouter nous. Et du coup, il y a effectivement une attitude de la part des concepteurs qui est un peu différente du neuf, où il y a un acte créateur, on part de rien et on arrive à quelque chose. Là, c'est différent. Il y a une histoire et il y a une sorte de fil conducteur et on est à un moment du fil, mais derrière il va se passer d'autres choses et puis dans 30 ans il y aura un autre archi qui viendra réhabiliter le truc. Donc voilà, il y a
ça incite à la modestie.
Voilà, il y a une forme d'humilité et puis d'écoute et d'attention qui est en fait assez reposant dans cet univers où parfois l'ego est un peu surdimensionné. Donc ça, c'est la première chose. Et puis effectivement, ensuite, c'est essayer d'aider le maître d'ouvrage. D'abord, de ne pas croire qu'on a réponse à tout et que nous, architectes, on pense que donc c'est bien. D'aider le maître d'ouvrage à faire les bons choix, à avoir les bonnes interventions au bon endroit, dans des logiques de projet et pas dans des logiques juste on traite la thermique, quoi. En fait, traiter la thermique, c'est une façon de faire de l'architecture, c'est un prétexte, c'est une nécessité à laquelle on doit répondre.
Mais il n'y a pas toujours une intervention sur les façades, parce que effectivement, il y a des fois où la façade est tellement belle, le matériau est tellement
tu as tout à fait raison. et parfois, il y a des bâtiments des années 60, 70, 80 qui sont très beaux et qu'il ne faut pas recouvrir. Tu vois, là, on travaille à l'agence sur une réhabilitation lourde, surélévation d'un immeuble qui est rue du Bessin, dans le 15e, pour Élogie-Siamp. L'architecte de ce projet, c'était Alain Sarfati. Et c'est son premier immeuble dans Paris qu'il a construit en 75. C'est un bâtiment qui était pas très apprécié. Et nous, quand on est arrivé, on s'est dit, mais en fait, ce bâtiment, il est très beau. Il annonce un peu Ports en Parc, Gaudin, avec des façades courbes. Voilà, et un soubassement en briques de Vaugirard. Et j'ai eu la chance de visiter l'immeuble avec lui et de l'entendre parler. Et effectivement, il fallait le surélever, cet immeuble. Et donc, notre position, ça a été de dire, on va faire une réhabilitation patrimoniale parce qu'il ne faut pas faire disparaître cette architecture. Et à force de recouvrir ces bâtiments pour des questions thermiques, en fait, on perd l'histoire, on efface la mémoire non seulement de la ville, des immeubles, mais des gens qui l'ont habité.
Donc, bien sûr.
Il y a un truc comme
ça. Et comment il a pris les choses, hein?
Alors, comment il a pris les choses, c'est un autre sujet dont on pourra parler, mais en tout cas, nous, c'était vraiment l'idée d'un hommage à cette architecture, à cet architecte, et une surélévation qui était très différente pour avoir aussi une lecture de la stratification. De dire, voilà, cet immeuble-là, il était comme ça jusqu'à R plus 3, puis il y a trois étages au-dessus, mais qui sont beaucoup plus simples, une géométrie beaucoup plus orthogonale.
Et lisible.
Lisible, et on sait, il n'y a pas de confusion entre les deux. Voilà, mais ça, c'est un exemple un peu extrême, mais ensuite, sur une réhabilitation en site occupé plus simple...
Non, mais on pourrait le faire sur plein de bâtiments.
Oui, et en fait, on se rend compte que l'isolation par l'extérieur systématique, c'est une bonne solution, ça marche bien, effectivement, hein, c'est le fameux manteau thermique qui permet de garder la chaleur. Et ben, c'est pas la solution unique pour tous les projets, ça, c'est très bien, et je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis simplement que penser que c'est obligatoire, c'est une erreur, et ça coupe d'une histoire, ça coupe du passé, ça coupe de belles choses qu'on a envie de faire perdurer. Voilà.
Alors, la réhabilitation, c'est quand même un peu, aujourd'hui, ce qui permet quand même d'avoir de nouveaux projets, de nouveaux marchés. Est-ce qu'on a les entreprises qui savent faire ? Parce que, quelque part, c'est pas pour donner des médailles aux architectes, mais ils savent être créatifs sur le neuf, et ça va être créatif sur la réhab. Et quelque part, si on nous laissait un petit peu plus de flexibilité et d'ouverture, on pourrait faire beaucoup de choses en réhabilitation. Mais est-ce qu'on a les entreprises qui savent faire, hein?
Je vois pas de distinction, de hiérarchie de savoir-faire entre le neuf et la réhabilitation. Il y a quand même en réhabilitation une moins grande complexité. C'est-à-dire qu'on rentre pas dans réhabilitation site occupé. On rentre pas dans des questions structurelles. On rentre pas dans des questions de mise en place de banches, de voiles de béton, de structures en bois qui peuvent être lourdes et complexes et qui nécessitent
Le
détail n'est pas un crime. Le détail, il commence par l'exigence de l'architecte et par la qualité de ses plans et de ses détails. Et ensuite, il passe par la rencontre avec une entreprise qui a un savoir-faire et par le maintien de cette exigence en phase chantier. C'est-à-dire qu'il faut aussi, malgré toute la sympathie qu'on peut avoir et l'estime réciproque, garder un bon niveau d'exigence les uns avec les autres, quoi. Et la bonne entente ne veut pas dire le laisser aller sur les chantiers. Voilà. Donc, nous, on est très attentifs sur les chantiers, à bien s'entendre, parce que c'est important, on a tous envie. Et puis, on n'est pas dans les relations conflictuelles ne mènent pas à grand chose, je crois. Mais ça ne veut pas dire qu'on se laisse aller et qu'on laisse les choses se faire. Donc, il y a un niveau d'exigence, mais nous, sur les chantiers sur lesquels on travaille actuellement, on a en réa les mêmes problèmes qu'en neuf. C'est-à-dire que parfois ça se passe très bien, parfois ça se passe un peu plus difficilement, mais ça finit toujours par sortir avec un niveau de un résultat qui est satisfaisant. C'est plus ou moins dans la douleur.
Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui... Bon, il y a quand même des entreprises qui ne sont pas encore prêtes à faire de la réhabilitation. Hein. On en voit, quand il y a des concours de conception-réalisation, on a quand même parfois des problèmes à trouver les entreprises ad hoc qui veulent bien aller justement dans cette espèce de subtilité du détail et de ne pas être là avec des recettes de cuisine.
Alors, il y a effectivement... Une modification de l'intérêt des entreprises. C'est-à-dire que quand le marché neuf était très porteur, toutes les à la fois les grandes entreprises, les majors et puis les PME importantes se satisfaisaient. Il y avait juste quelques entreprises qui faisaient de la réhabilitation en site occupé. Tu as aussi des entreprises qui depuis longtemps font de la réhabilitation lourde, patrimoniale, qui ont un vrai savoir-faire et qui travaillent bien et qui continuent à bien travailler. Mais le fait que l'activité des bailleurs, et on l'observe depuis plusieurs années, et moi je l'ai vu à l'échelle de la création de l'agence il y a 17 ans où on travaillait avec des bailleurs principalement en neuf, et aujourd'hui on travaille avec les mêmes bailleurs en réhabilitation.
C'est combien de pourcentage de projets à l'agence aujourd'hui
La réhabilitation, je pense que c'est entre 50 et 60% des projets. Et il y a 5 ans, c'était entre 20 et 30%. Donc ça a effectivement beaucoup changé. Et les entreprises avec lesquelles on travaillait en neuf, aujourd'hui, elles se sont toutes plus ou moins mises à travailler aussi en réhabilitation. Donc, ce sont des évolutions qui accompagnent des changements de société, des changements de mentalité, une attention existante, une intolérance à la construction neuve aussi. On en parlait lors de la dernière émission, le fait que des riverains, quand ils voient arriver un immeuble à la place de rien, c'est insupportable. Alors que voir un immeuble défraîchi être réhabilité et qui redevient un nouveau,
c'est même une fierté.
Ça devient sympa.
Et puis ça renforce leur patrimoine. ça donne de la valeur à leur propre immeuble.
Ce qui n'est pas le cas de l'immeuble en face. Bon, donc il y a toutes ces modifications de fond qui sont effectivement pour nous architectes des modifications de façon de travailler, de type de projet sur lesquels on peut travailler. Et en tout cas, pour nous, les gens, c'est avec beaucoup de bonheur parce que y a cette attention aux usages qui est un peu plus poussée. Il y a cette idée de continuité. Moi, je suis très attaché à l'agence, à se dire qu'on crée du patrimoine quand on est architecte parce qu'on construit des immeubles. Mais on a aussi la charge de transmettre le patrimoine, de lui donner une nouvelle vie, de le faire perdurer et de sortir de cette espèce de modernité qui consistait à faire table rase. Et c'est vrai que certains projets urbains portés par les politiques publiques ont été assez dramatiques de ce point de vue-là, parce que on s'est attaqué à des quartiers en disant ça se passe pas bien dans ces quartiers, on rase tout et on reconstruit.
C'est fini, ça.
Ben, on est encore un peu là-dedans.
Le bilan carbone de la démolition, il est quand même tellement...
Oui, mais malgré tout, tu sais, les politiques de l'ANRU, pour ne pas le citer, elles sont inscrites depuis longtemps, programmées depuis longtemps. Et donc, malgré tout ce qu'on peut se dire sur le bilan carbone, sur la catastrophe de la démolition, il y a encore beaucoup de projets où on démolit et on reconstruit. Donc, voilà. Alors, ça va probablement continuer à évoluer. Mais en tout cas, il est clair que pendant de nombreuses années, on a fait des choses qui n'étaient pas extraordinaires de ce point de vue-là.
Alors, est-ce que
même au-delà du bilan carbone, tu sais, il y a aussi quelque chose qui est dit aux gens qui habitent les immeubles, le quartier, tu vois, quand tu as vécu et grandi dans un immeuble et qu'on vient dire, attends, dans ton quartier, ça se passe pas très bien, tu sais ce qu'on va faire, c'est qu'on va raser l'immeuble où tu as passé ton enfance et puis ça se passera mieux en faisant des petites maisons rigolotes avec des toitures. C'est quand même un drôle de message qu'on renvoie aux gens, et c'est une façon malgré tout de pas reconnaître
la qualité. C'est pas du développement durable,
quelque part. C'est pas du développement durable, et puis c'est pas de l'encouragement.
Alors justement, est-ce qu'en réhabilitation en site occupé, on fait ensemble ? Est-ce que il y a des étapes dans tes projets de réhab en site occupé où vraiment il y a une participation des habitants ?
On parlait de la concertation aussi de la dernière émission sur les permis de construire. Là, la concertation, elle est hyper prégnante. Et elle est absolument nécessaire parce qu'on vient toucher à l'habitation, au logement
et à l'humain.
Et les gens y vivent, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont être là pendant les travaux. Donc il y a à la fois le projet, qu'est-ce qu'on va faire, qu'ils puissent le comprendre, y adhérer, l'infléchir, parce qu'ils ont eux-mêmes une expérience qui est très importante pour nous architectes. Et donc ce qui peut être dit, ce qui peut ressortir de certaines réunions qui sont souvent faites sous forme d'ateliers pour justement avoir un côté dynamique et puis essayer de faire ressortir l'expérience, le passé et les histoires qui vont nous alimenter. Et puis ensuite, il y a effectivement la communication sur le chantier, la façon dont ça va se passer pour que ça puisse cohabiter le mieux possible.
Et être une belle opération à la fin.
Et être une belle opération dont tout le monde est fier. Et c'est aussi une fierté et une joie pour un architecte de se dire que c'est pas son projet, mais c'est le projet de son maître d'ouvrage, c'est le projet des habitants qui y vivent, c'est le projet de l'entreprise.
Et d'une communauté.
Et d'une communauté, bon. Et qu'on y adhère et qu'on a une fierté qui est commune, quoi.
Bon, écoute, ça parle à mes oreilles, évidemment. à bientôt.
Merci Myriam, à bientôt, j'espère.
À bientôt, chers auditeurs.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.